Bonjour à tous et bienvenue dans une semaine Sportmidable, une semaine Sportmidable spéciale Tour de France cette semaine avec nos trois invités. On accueille sur ce plateau Patricia Temreau qui court en Nouvelle-Calédonie et qui est très investie aussi au niveau des jeunes du comité régional de cyclisme. Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes avec Ryan Lachny, qui est champion des Dom-Tom 2024 et qui n'a pas pu défendre son titre en 2025 à cause de blessures. Bonjour Ryan.
Bonjour.
Et puis évidemment Ricardo Baroni, grand spécialiste de cyclisme et pratiquant aussi régulier. Bonjour Ricardo.
Bonjour Jean-François.
Alors on va consacrer cette émission spéciale à ce Tour de France édition 2025 qui a commencé depuis un peu plus d'une semaine. Il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer peut-être par cette première semaine de course qui a été très très agitée. Il s'est passé des choses sur à peu près toutes les étapes. On a l'impression que les Tours de France maintenant démarrent à chaque fois sur les chapeaux de roue. Est-ce que c'est l'impression que vous avez Ricardo?
Oui, puisqu'il y a des difficultés dès le départ. Donc ceux qui visent le classement général, ils ont peur de perdre du temps, donc ils arrivent avec une condition physique, on va dire, à 80%, et donc ça fait tout de suite de la bagarre.
Ça fait tout de suite de la bagarre. On assiste depuis quelques années au fait que les favoris du Tour s'expliquent dès la première semaine, alors qu'avant, si je remonte il y a 5, 6, 10 ans, ils sortaient du bois au moment où arrivaient les étapes de montagne. Ryan Lachny, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les favoris du Tour s'expliquent quasiment dès le premier jour?
Je pense que c'est une volonté des organisateurs de rendre la course de plus en plus attrayante, de plus en plus tôt, pour passionner les spectateurs et rendre une course très animé.
Et vous, quel regard vous portez sur cette première semaine, Patricia Temreau? Il y a eu déjà beaucoup de spectacles?
Beaucoup de spectacles avec des profils de course pour tout type de coureur et où chacun se donne vraiment les moyens d'aller jusqu'au bout.
Donc c'est ça qui fait aussi la richesse du Tour de France, c'est la richesse des étapes. Aujourd'hui, elles sont conçues vraiment pour que le spectacle dure du premier au dernier jour. C'est bien
oui,
ça?
Exactement.
Alors, Ricardo?
En plus, après le Dauphiné...
qui est la première grande course à l'étape de la saison.
Avant le Tour de France, Jonas Vingegaard s'est senti, je pense, un peu inférieur par rapport à Tadej Pogacar. Et donc, l'équipe Visma Lisebike a décidé d'être agressif tous les jours, dans toutes les étapes. La première étape où les sprinters espéraient avoir une chance de prendre le maillot jaune, il y a eu des bordures et grâce, on va dire, à cause de l'équipe Visma Lisebike. Et donc ça a déjà d'entrée, premier jour, il y a des coureurs qui visaient le classement général qui ont perdu du temps, donc du spectacle dès le premier jour.
Ça veut dire que les équipes font leur stratégie au jour le jour, en fonction évidemment du classement, en fonction des conditions météo, en fonction des conditions de course?
Oui, surtout du vent, quoi. C'est le vent qui décide si l'étape elle est très sélective ou pas. Le vent de côté fait souvent des bordures et quand il y a des bordures, il y a de la sélection qui se fait automatiquement. On a eu droit à une étape avec du vent de face, il s'est pas passé grand chose.
Ryan Lachny, vous connaissez vous aussi les pelotons de l'intérieur. Comment ça se passe en course?
Ça dépend exactement des leaders, ce qu'ils souhaitent mettre en place, quand est-ce qu'ils veulent créer les premiers écarts. Et c'est vrai qu'avec ces parcours qui sont de plus en plus accidentés dès les premières étapes du Tour, l'envie de créer des écarts est de plus en plus importante et se fait précocement dans la course. Et du coup, ça crée une course d'autant plus intéressante à regarder.
Mais chaque équipe a sa stratégie à chaque départ et l'affine au moment évidemment de l'étape et de la manière dont elle évolue.
Oui, parce que chaque leader a ses, comment dire, a ses, comment expliquer ça?
À ses stratégies.
À ses stratégies, mais à surtout ses points forts et ses points faibles. Et je pense que les stratégies s'affinent par ce fait. Et chaque équipe est constituée différemment et a des cartes à jouer différentes.
Alors on sait qu'il y a un débat, je ne sais pas ce que vous en pensez Patricia Temreau, sur l'utilisation des oreillettes pendant les courses. Aujourd'hui, elles sont admises. On fait la course avec une oreillette. On a le directeur sportif qui parle dans l'oreillette. On affine, on discute. Est-ce que c'est une bonne chose pour le spectacle, selon vous? Vous pouvez vous mouiller, vous avez le droit d'avoir un avis.
Une bonne chose, je ne sais pas, mais c'est sûr que ça change la course. C'est sûr que les oreillettes, ça change complètement le résultat d'une course. S'il n'y a pas d'oreillettes, je dirais que la combativité, elle est permanente parce qu'il faut calculer systématiquement. On ne laisse pas sortir les échappés de la même manière. On n'essaie pas de contrôler la course en se disant c'est pas grave si ce sont des hors classement général qui sont devant. Donc non, c'est clair que les oreillettes, elles influent. La course est sans oreillette, le classement serait peut-être pas différent pour les trois premiers, mais en tout cas le résultat serait différent au bout d'une semaine, au bout de deux semaines, au bout de trois semaines, parce que l'épuisement serait différent et serait à gérer de manière différente.
Pour ou contre l'oreillette Ricardo ?
Ben, il n'y a qu'à voir les championnats nationaux, les championnats de France, où ça se fait sans oreillettes et ça nous fait une course vraiment spectaculaire. Même les championnats du monde, hein, il n'y a qu'à voir l'année dernière, Tadej Pogacar est parti à 100 km de l'arrivée. Je pense qu'avec l'oreillette, je suis pas convaincu qu'il gagnait la course. Ça aurait permis une gestion tout à fait différente des coureurs qui étaient derrière et qui ont un peu paniqué sur cette attaque. Donc c'est vrai que sans oreillette, ça fait plus de spectacle, mais est-ce que le vainqueur serait différent ?
Ryan Lachny ?
Je suis aussi contre les oreillettes. Je pense que j'ai couru en N1 toutes mes années N1, je les ai fait sans oreillettes. Et c'est vrai que ça rend les courses différentes. Et c'est vrai que ça crée peut-être un peu moins de suspense des courses qui sont plus planifiées grâce à ce moyen de communication, quoi.
Alors, on va revenir évidemment sur le classement, sur les favoris, sur l'étape aussi qui attend les coureurs cette nuit, parce que c'est le 14 juillet. C'est toujours une étape particulière sur le Tour de France. Et en plus, comme c'est la première étape de montagne, ça va sans doute beaucoup bouger. Mais en revenant sur cette première semaine de course, on s'aperçoit qu'elle a été marquée par de très nombreuses chutes. Il y a beaucoup de coureurs déjà qui ont dû abandonner. Ryan Lachny, ça frotte beaucoup dans les pelotons, ça va très très vite sur les arrivées au sprint, mais on voit aussi des chutes parfois à un moment où finalement il ne se passe pas grand-chose, alors c'est peut-être de l'inattention, etc. Mais il y a cette tendance quand même sur les routes à avoir de plus en plus de chutes hein, sur des courses à étapes.
Oui, d'autant plus sur le Tour de France, parce que c'est la plus grosse course au monde, mais c'est sûr qu'aujourd'hui les pelotons vont de plus en plus vite, encore avec l'étape d'hier qui a été l'une des étapes les plus rapides du Tour. Le matériel fait que les coureurs vont de plus en plus vite et comme on en parle souvent, les aménagements urbains font qu'on fait tout pour faire ralentir les automobilistes et c'est deux choses qui ne vont pas forcément ensemble et c'est peut-être l'une des causes de ces chutes.
Patrice Attemereau.
Oui, je suis d'accord sur le fait qu'il y ait des aménagements urbains. On l'a vu plusieurs fois, hein, plusieurs reprises là, sur les étapes où il y a des rétrécissements. En fait, qui sont où les deux voies passent à une voie, et c'est sûr quand le peloton arrive à plus de 100 personnes, de passer de deux à une voie à plus de 50 km/h, ça occasionne des ralentissements et soit il y a une toute petite perte de maîtrise du vélo et ça occasionne une chute. Hein, il y a beaucoup de situations qui peuvent occasionner des chutes. De par les infrastructures urbaines. Et puis, en effet, les coureurs prennent aussi beaucoup de risques parce qu'ils ont tous envie d'arriver, de pointer au sprint en premier, de franchir d'attraper les points de la montagne, de tenter leur chance, en fait. Et donc, on a vu que sur les premières étapes, c'était quand même plutôt fébrile, où justement, tout le monde s'observait et personne ne voulait se laisser partir.
Ryan Lachny, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Non, c'est là qu'on pourrait revenir sur les oreillettes. Est-ce que c'est bon ou pour ? Parce que oui, normalement, ça a but de prévention, parce que les directeurs sportifs sont là pour prévenir les coureurs de ces points dangereux. Mais est-ce que ça ne crée pas aussi une prise de risque supplémentaire pour pouvoir passer dans les premières positions et éviter d'être désavantagé ? Voilà, c'est...
Ricardo.
Où on voit, par exemple, des chutes qui se produisent proche de l'arrivée, c'est les points UCI qui ont été mis en place. Et ces points UCI, que vous fassiez 10e ou 15e, ça compte énormément. Donc, n'importe quel coureur essaye d'être devant et de passer devant.
Les points UCI, c'est le classement. Hein.
Les points UCI, c'est ce qui permet à une équipe d'être World Tour et d'être automatiquement invitée, par exemple, au Tour de France, et non d'attendre une invitation, comme certaines équipes françaises qui sont en continental. Donc le World Tour, pour un sponsor, c'est très très important d'être dans le World Tour pour qu'on puisse les voir toute l'année. Et maintenant que les points sont distribués par les équipes, je donne un exemple d'une équipe qui est une équipe kazakh, qui eux ne regardent pas la victoire, ce qu'ils regardent c'est d'être dans les premiers. C'est-à-dire qu'ils sont 3 coureurs dans les 10 premiers, ils gagnent peut-être pas l'étape, mais ce qui est important pour eux c'est de faire des points pour rester en World Tour et garder le sponsor.
Voilà, parce que ce que les amateurs hein, de cyclisme regardent quand ils regardent une étape de Tour de France, il y a plusieurs courses dans la course en fait. Hein. Il y a évidemment le maillot jaune de leader, il y a les maillots distinctifs, que ce soit le maillot vert, le maillot à poids, le maillot blanc pour le jeune coureur, il y a les points UCI, il y a les sprints intermédiaires, enfin il se passe beaucoup de choses dans une seule étape du Tour de France. On va revenir sur ces chutes parce que finalement, dans ce Tour de France 2025, il y a deux grandes catégories qui ont été privées de coureurs qui pouvaient jouer la victoire finale dans leur catégorie. C'est le cas du maillot vert. Hein. Philipsen qui a dû abandonner. Pour le général, il aurait peut-être pas gagné, mais il y avait le portugais Almeida qui a été aussi contraint à l'abandon la nuit dernière. Donc ces chutes, on ne va pas dire que ça fausse la course parce que ça fait partie de la course, mais quand même, ça a des impacts.
Oui, ça a été deux chutes tout à fait différentes, puisque Philipsen, ça a été une chute pour faire des points au sprint intermédiaire, puisqu'il était déjà maillot vert, et donc son intention était de faire des points pour garder le maillot. Il y a eu un accrochage avec un autre coureur. Ce qui concerne le Portugais, qui a quand même fait quatrième du Tour de France l'année dernière, c'est de l'inattention dans le peloton, parce qu'ils étaient qu'une quarantaine à ce moment-là. Et donc, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais ça a été une chute assez grave. Et donc, il a pas pu. Il a repris le départ de l'étape le lendemain, mais là, il a abandonné. Il ne peut pas continuer. C'était vraiment quelqu'un de très important dans l'équipe UAE pour soutenir Pogacar, et donc peut-être que ça va nous redonner encore du spectacle. Quoi.
Voilà, parce que ce sont des coéquipiers qui servent dans les étapes de montagne, notamment pour faire le train pour leur leader en fonction de leur état de santé, et dans leur état de forme plutôt. Sur ce classement des sprinteurs, sur ce maillot vert, on a l'impression qu'il y a quand même sur ce Tour de France un changement de génération. Il y a un certain nombre de sprinteurs qui gagnaient beaucoup d'étapes qu'on ne voit plus parce qu'ils ont pris leur retraite ou qui ne sont plus dans les équipes. On voit des coureurs que peut-être le grand public ne connaît pas quand on parle de Tim Merlier qui a gagné cette nuit, ou encore de Arnaud Delis, ou Arnaud Delay, je ne sais pas comment on prononce,
Delis.
Il y a quand même un renouvellement au niveau des sprinteurs, Patricia Temo, aujourd'hui.
J'y connais pas grand chose en sprint, mais personnellement, mais de ce que je vois de l'extérieur, quand même, pour être sprinteur, il faut quand même des capacités physiques spécifiques. D'autant plus que ce sont des sprinteurs. Parce que eux, ce sont des super sprinteurs. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de tenir une étape de 175 bornes sans se faire distancer. Ils se font distancer de temps en temps, mais ils arrivent à se faire ramener dans le peloton. Donc, ils roulent quand même comme des super rouleurs. Et en plus, ils arrivent à concrétiser à la fin de l'étape pour remporter l'étape. Donc, en fait, c'est quand même des sprinteurs vraiment spécifiques avec de grosses capacités. Et ça, il y en a pas beaucoup.
Ouais.
C'est sûr qu'ils sont assez restreints.
Mais les équipes sont conçues pour avoir chacune quasiment un sprinteur dans leur équipe.
Oui. Si elles veulent figurer au général, il leur faut un sprinteur. Généalement. Et pour aller au. Les meilleures équipes ont un sprinteur. Elles sont souvent organisées avec le sprinteur et avec le leader. Mmh. Le leader n'est pas le sprinteur, rarement.
Mais ça arrive quasiment pas, oui.
Sauf Pogacar qui a des compétences de sprint.
Il sait tout faire.
Qui est un peu extraordinaire. Mais c'est vrai que chaque équipe a son leader, son sprinteur. Et son poisson pilote qui ramène le sprinteur à chaque fois.
Marianne Lachny, on assiste quand même à un changement de génération au niveau des sprinteurs.
J'ai envie de dire oui et non, parce qu'on a quand même des sprinteurs qui sont là depuis un petit moment, comme Arnaud Démare et choses comme ça, qui sont toujours présents dans les sprints, même s'ils ne gagnent pas actuellement.
On ne l'a pas vu beaucoup de cette première semaine de Tour.
Ça peut être un des débats d'aujourd'hui, parce qu'il cherche actuellement sa 100e victoire, si je ne me trompe pas. Mais oui, on a peut-être une nouvelle génération de sprinteurs un peu plus jeunes et un peu plus prêtes à prendre des risques pour la gagne. Du coup, c'est un facteur qui est quand même assez important pour aller gagner au sprint. Alors j'ai envie de dire oui et non. Mmh. On a toujours les vieux de la vieille qui savent se placer et qui savent y aller au métier, comme on dit, et les jeunes qui sont là un peu plus en forme mais prêts à prendre plus de risques.
Ricardo Baroni.
Moi, j'ai une petite déception sur ce sprint, c'est sur les sprints qui ont lieu actuellement. C'est que l'année dernière, le maillot vert du Tour de France, c'était un Érythréen, Binyam Girmay.
Qui est toujours là, dans le peloton.
Qui est toujours là, qui fait deuxième à la première étape, quand il y a eu les bordures. Mais depuis, on ne le voit pas beaucoup. Donc, c'était un nom qu'on avait l'année dernière l'habitude d'entendre, et il n'est pas là. Et donc, on se pose certaines questions sur les sprints, comment ils se déroulent. On a des Français qui arrivent à faire des sprints pour Paul Penouette.
Le Breton. On a Émile Lajanière aussi qui était là. Émile Lajanière qui était présent sur les sprints, mais qui a chuté malheureusement, qui est sorti, qui était aussi un des Français. On a quand même une bonne génération de Français qui est très loin d'aller d'être au niveau World Tour, mais qui sont quand même présents sur des grosses arrivées. Voilà, c'est quand même assez ambitieux pour les Français.
Alors on va scruter, si vous le voulez bien, quelques-uns des favoris de ce tour, pour savoir et pour nous dire un peu comment vous jugez leur performance sur cette première semaine. La première question qu'on peut se poser, c'est sur Jonas Vingegaard, qui est le seul, a priori, c'est comme ça qu'il était présenté avant ce tour, qui aurait pu lutter contre Pogacar, qui est le grand favori de ce Tour de France. Il est un petit peu en dedans, vous l'avez dit, sa préparation n'est pas au maximum. Est-ce qu'aujourd'hui, avec son équipe, l'Isma Visebike, il va pouvoir relever la tête et quand même jouer la gagne finale sur ce tour, selon vous, Ricardo Baroni?
Moi, je pense qu'il n'y a absolument rien qui est joué, hein, puisqu'on a vu une grande évolution entre le Jonas qui était au critérium du Dauphiné libéré et actuellement le Jonas sur le Tour de France qui est beaucoup plus agressif. Et dans les arrivées, on va dire, difficiles, c'est quand même lui, par exemple, dans le mur de Bretagne, c'est quand même lui qui arrive à suivre Pogacar. Il ne fait pas la course en solo.
Il suit, mais il n'arrive pas à passer devant.
Oui, mais dans les grands cols, on n'est pas encore arrivé dans des cols de 20-30 km. Peut-être que la situation va changer. Disons, ça va nous permettre d'avoir du spectacle. La fois où Pogacar perd son Tour de France, c'est quand même dans des grands cols où il a été mis en difficulté tactiquement. Maintenant, dans une arrivée comme le mur de Bretagne, il y a notre ami Lachenay, qui le connaît très bien, qui saura nous expliquer comment c'est ce genre de sprint.
Alors, racontez-nous, Ryan Lachenay, ce mur de Bretagne que les coureurs ont fait deux fois en fin d'étape cette année.
Le mur de Bretagne, ouais, on pourrait presque parler d'un petit col en Bretagne. Il le classe plutôt comme un petit col. Il faut savoir que c'est 2 km. Le mur de Bretagne fait 2 km, mais en soi, le mur de Bretagne est beaucoup plus long parce que ça dépend du versant par lequel on arrive. Mais il y a un long faux plat qui dure facilement 3-4 km dans certains côtés qui sont très usants et qui peuvent déjà mettre en difficulté certains coureurs. Mais ça reste que ce n'est pas un grand col. Du coup, oui, on peut laisser sous-entendre que Vingegaard est peut-être... Peut-être pas tout à fait perdant de ce tour, parce qu'il pourra peut-être renverser le tour dans la haute montagne, sachant qu'il a quand même eu une équipe qui, pour moi, est peut-être mieux structurée que la UAE.
Vous avez partagé ce sentiment, Patrice Attemro?
Ben, surtout que la Visma, pour l'instant, n'a perdu personne. Au contraire de la UAE, ils ont quand même de très bons coureurs, que ce soit Step Cups, que ce soit Simon Yates, il y a Van Aert qui est toujours là. Donc c'est sûr qu'il y a aujourd'hui plus de support au niveau de la Visma qu'au niveau de la UAE. Il y a un moment donné où Tadej Pogacar risque de se retrouver peut-être un peu seul en montagne.
Surtout après avoir perdu Almeida, notamment.
Exactement. Donc, la Visma est aujourd'hui plus structurée, avec plus de force.
Alors, un mot sur la Visma, parce qu'il y a, vous l'avez cité, Wout van Aert, hein, qui était un coureur un peu atypique, qui avait fait le show sur le Tour de France l'an dernier. Il est un peu plus en dedans, là, cette année. On le voit moins, peut-être, qu'on l'a vu les années précédentes. Alors, les étapes de montagne ne sont pas encore arrivées. Wout van Aert, on s'est toujours demandé s'il avait aussi les capacités pour remporter un jour le Tour de France, s'il avait une équipe bâtie autour de lui, etc. Aujourd'hui, il fait le coéquipier modèle pour Vingegaard. Qu'est-ce qu'il faut penser de ce coureur qui est complètement atypique, Riccardo Baroni?
Ben, je pense que c'est un coureur déjà au niveau humain qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, hein, qui se met à la portée de tout le monde, qui est disponible pour aider son leader. Il ne pense pas toujours spécialement à lui. Il a fait un Tour d'Italie fantastique, hein, où il a gagné une super étape, où il a aidé son équipier Yates à gagner le Tour d'Italie. Donc je pense qu'il est toujours présent et que dans les étapes qui vont venir, il sera présent pour aider Jonas. Espérons qu'il retrouve sa condition physique où il avait aidé Jonas à lâcher Pogacar, où là il est vraiment un coureur d'exception, mais il a collectionné des chutes qui font qu'il a de la difficulté à retrouver le haut niveau. Il faut savoir que dans le passé, c'était le rival principal de Van Der Poel, et qu'actuellement, depuis le départ du Tour de France, Van Der Poel, il nous fait un spectacle incroyable. Et lui, non, il n'arrive pas encore à percer. Mais je pense que ça va venir dans la suite du Tour.
Peut-être qu'il se réserve aussi pour les étapes de montagne, parce qu'à lui seul, il peut faire exploser un peloton, Wout van Aert.
C'est vrai qu'il a gagné une étape qui arrivait au sommet du Mont Ventoux.
Quand même.
Et il devait le faire deux fois, ce Mont Ventoux. Mais bon, c'était dans une échappée, c'était une situation assez particulière. Mais espérons que ça puisse nous amener du spectacle.
Alors, vous avez évoqué l'un de ses grands rivaux, hein, qui est Mathieu Van Der Poel, qu'on a beaucoup vu sur cette première semaine de Tour de France, notamment cette nuit où il a fait quasiment toute la course tout seul en tête. Enfin, ils étaient deux avec un coéquipier, puis il a fini tout seul avant de se faire manger littéralement à 500 mètres de l'arrivée. Un coureur comme Van Der Poel, avec son standing et sa classe, il savait, Ryan Lachenay, qu'à 5-6 km de l'arrivée, ça allait revenir. Pourquoi il s'accroche?
Déjà, je pense que l'échappée qu'il a fait, c'est pas uniquement pour lui. Ce qu'on a pu voir sur les réseaux, c'est qu'il a posté qu'il a fait cette échappée, c'était pour son collègue de
Richard.
Oui. Voilà, son rêve était de monter sur un podium Tour de France et ça a pu être concrétisé grâce aux efforts de Van Der Poel. Du coup, je pense que déjà la première l'idée principale de cet échappé était d'offrir quelque chose à son coéquipier. Et je pense que sur la fin, il a pu penser que ça pourrait peut-être aller. C'était ambitieux, mais je pense que pour un coureur comme Van Der Poel, il préfère gagner avec la classe et du panache comme, et faire ce genre d'étape que de rester dans le peloton et de sortir aux 500 mètres et gagner l'étape. Mmh. Alors je pense que moi, j'ai apprécié cette course et voilà, j'ai envie de lui dire chapeau.
Oui, Patricia Temreau, sur l'état de forme de Van Der Poel et sa première semaine de course.
Moi, j'ai l'impression qu'ils sont un peu les mêmes, c'est-à-dire qu'on a Van Der Poel chez Alpecin et Van Aert chez Visma, et qu'ils ont un peu les mêmes compétences, les mêmes qualités humaines, et qu'ils ont un peu également, de temps en temps, ils ont la carte blanche, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont en course et que dans l'oreillette, on leur dit, aujourd'hui, si tu sens que tu peux le faire, fais ce que tu veux, quoi. En fait, les deux, ils sont un peu électrons libres.
Ils ont un statut particulier dans les équipes.
Oui, et il n'y en a pas beaucoup, hein, dans le peloton qui ont cette possibilité-là. En tout cas, ces deux coureurs-là, c'est l'impression que ça donne, c'est qu'à un moment donné, ils ont carte blanche et en fonction de leur propre analyse de la course, ils font ce qu'ils veulent au moment où ils veulent. En tout cas, c'est sûr que Van Der Poel, il a des qualités extraordinaires, mais pas pour gagner le Tour de France.
Non, mais ni Van Der Poel, ni Van Aert. D'ailleurs, ils savent très bien, c'est ce qu'on appelle les coureurs de classique, hein, qui sont bons sur, ils sont extraordinaires, hein, sur des grandes courses d'un jour, mais sur des courses à étapes, c'est plus compliqué. Ricardo Baroni.
Oui, la question que je me pose, c'est est-ce que Van Der Poel va finir le Tour de France ? Parce que quand on voit la dépense d'énergie qu'il fait depuis le début du Tour de France, c'est une question que je me pose. Tandis que Wout Van Aert, s'il n'a pas de chute ou quoi que ce soit, lui, il a l'habitude de terminer le Tour de France et nous faire un joli sprint sur les Champs-Élysées.
Alors, on va parler aussi de Kevin Vauclin, ce Français qui se retrouve troisième au classement général, à 1 minute 11, je crois, du leader Pogacar. C'était pas lui forcément qu'on attendait à cette place-là. Est-ce que vous êtes étonné par cette performance? Et surtout maintenant, au bout de cette première semaine de course avec cette place de troisième au général, quels vont être les choix qu'il va devoir faire, Ryan Lachny?
Pour moi, c'est pas du tout étonnant de retrouver Kevin Vauclin à ce rang. J'ai un peu pu courir avec lui en France. C'est un coureur qui est très bosseur et qui a la tête sur les épaules et qui sait se préparer, qui sait donner les moyens de ses ambitions. Après, moi, je pense qu'il a tout à fait raison de continuer à vouloir jouer le général jusqu'à où il pourra rester sur ce podium. Après, l'avenir nous le dira. Mais je pense qu'il a tout intérêt à au moins essayer de rester le plus longtemps possible dans la quête du général.
Alors, vous qui le connaissez, il a quelle catégorie, il a quelle qualité, pardon, Kevin Vauclin? Il peut grimper, il peut rouler, il dispose toutes les qualités d'un coureur de grand tour?
On pourrait le comparer à un petit Poggi, mais à l'échelle française.
Un petit Poggi, Pogacar, pour les intimes.
Ouais. Voilà, un petit Pogacar, parce que c'est un très bon puncher. Il fait deuxième sur le mur de Huy, sur une classique. Il fait deuxième du Tour de Suisse, derrière Jao Almeida, qui est une des courses préparatoires sur le Tour de France. Il grimpe très bien. Il est très agile sur un vélo. Il vient aussi un peu du cyclocross et choses comme ça. Et puis, c'est un très bon rouleur, vu qu'il fait des très beaux chronos. Il passait à deux doigts d'être champion de France, malgré une chute sur le championnat de France de chrono. Du coup, j'ai envie de dire que c'est un coureur qui sait à peu près tout faire. Et je pense qu'il... C'est un très beau coureur.
Ouais, Patricia Temreau, Kevin Vauclin doit jouer le général, selon vous?
À fond sur le général. Il fait cinquième au chrono. Là. Enfin, il arrive dans les cinq meilleurs du monde. Quoi. Il est cinquième au chrono du Tour de France. Là, il est troisième au général. Au maillot blanc, il est deuxième.
Maillot du meilleur jeune.
Ah, bien sûr. Donc là, il faut qu'il y aille. Enfin, là, il n'y a même pas la question à se poser. Et puis, il voit au niveau des jambes comment ça se passe en montagne. S'il voit qu'en montagne, il n'arrive pas à rester dans ce peloton-là, et ben en effet, il continue peut-être sur le maillot blanc, sur le maillot de meilleur jeune. Mais là, clairement, c'est extraordinaire. Les dix premiers de ce classement-là, c'est les 10 meilleurs coureurs au monde actuellement.
Dès la première semaine du Tour.
Ah oui, c'est exceptionnel qu'il soit à ce niveau-là, hein, même s'il est à 1 minute 17 de Pogacar, il est quand même devant Vingegaard. Ça n'a pas grand-chose, mais
c'est
quand même...
Ça.
Ça fait quand même 9 étapes, il y est encore.
Ricardo Baroni.
Où je me suis rendu compte qu'il avait pris beaucoup de valeur, c'est que dans le mur de Bretagne, Remco Evenepoel, ce qui l'inquiétait et ce qu'il voulait absolument, c'était de lâcher Kevin Vauclin. Il n'a pas fait sa course par rapport à Pogacar ou Jonas Vingegaard, il l'a fait uniquement dans le but de prendre du temps sur Kevin Vauclin. Si Kevin Vauclin n'était pas une personne qui viserait le général, il s'en occuperait pas du tout. Tandis que là, je trouve que indirectement, Remco a donné une certaine valeur à ce coureur français. Je pense que cette nuit, avec toutes les montées qu'il va y avoir, on verra demain matin s'il est toujours classé au général. Et je pense que s'il est toujours classé au général, vu qu'il y a une étape de repos, ça peut nous permettre d'avoir un super Tour de France avec Kevin Vauclin.
Et derrière Kevin Vauclin, Ryan Lachny, quels sont les coureurs français qui peuvent tirer leur épingle du jeu sur ce Tour de France et qui viseraient principalement les victoires d'étape, parce qu'aujourd'hui, le général est quasiment inatteignable pour un coureur français, à part peut-être pour Vauclin, si tout marche bien pour lui.
Oui, c'est un peu plus compliqué au niveau français. Après, sur le reste, on a Martin Guyonnet qui est, il me semble, encore dans le top 10. Après, une victoire d'étape, ça me semble un peu plus compliqué vu ses qualités de vraiment pur grimpeur. Ouais, niveau français, je pense qu'on est un peu moins bien muni pour le reste de ce Tour de France.
On va suivre quand même l'étape cette nuit, hein, qui est la fameuse étape du 14 juillet. On se souvient de certaines victoires françaises le 14 juillet qui sont restées dans les annales. Hein. Bien évidemment, quand un Français gagne le 14 juillet, c'est toujours
Barguil.
Barguil. Et puis avant lui, il y a eu Jalabert aussi.
C'est sûr.
Qui avait remporté il y a quelques années de ça. On va parler dans la deuxième partie d'une semaine Sportmédias spéciale Tour de France dans un instant de Tadej Pogacar. Vous nous avez fait un cadeau aussi, Ricardo Baroni, en joignant son manager, Axel Alex Carrera, qui nous a envoyé un petit message qu'on entendra dans un instant. Et puis on parlera aussi de l'étape de cette nuit qui va peut-être servir de déclencheur ou détonateur pour ce Tour de France avant l'étape de repos. Ce sera après une page de publicité.
RRB, la pub. Envie d'une pause gourmande à l'italienne? Dino Pizza vous régale au centre équestre La Gourmette à Magenta. Désormais, découvrez nos petites pizzas et nos géantes à partager. Midi et soir, 7 jours sur 7. Sur place ou en livraison avec Midit, Dino Pizza, téléphone 31 91 92.
Écoute, il y a un jeu avec les Team Tam jusqu'au 31 août. Tu scannes le petit code dans magasin, tu joues au mini-jeu, faut retrouver la balle sous un des trois gobelets, et si tu gagnes, t'es inscrit direct au tirage au sort. Chaque lundi, il y a un gagnant. Il y a des lots fins valables à gagner. Switch, télé, trottinette et même une voiturette. Plus d'informations sur le Facebook Arnaud Sensei Community. Règlement déposé chez Maître Citrita.
Radio Rythme Bleu.
Il est 17h27, tout de suite la suite de votre rubrique Sportmidable.
Une semaine Sportmidable consacrée cette semaine au Tour de France 2025 avec nos trois invités, Ricardo Baroni, Ryan Lachny et Patricia Temreau. Alors on a évoqué quelques-uns des coureurs qui se distinguent sur ce Tour de France. On va évidemment parler de Pogacar qui est le favori incontesté. Il a l'air très en forme, il fait les sprints, on l'a vu sur les étapes de Baroudeur. Il attend la montagne avec impatience. Franchement, qui peut battre aujourd'hui Tadej Pogacar, Ricardo Baroni, vu l'état de forme qu'il a montré? Alors, à cette petite exception près, on en a parlé, que son équipe est peut-être un peu plus décimée et qu'il aura moins de coéquipiers pour les jours qui arrivent. À part ça, il a toutes les qualités, évidemment, pour remporter encore ce Tour 2025.
Son principal adversaire, c'est Jonas Vingegaard. Les autres, ils sont déjà, on va dire, dans les grands cols un
et
petit peu.
Et Evenepoel, vous le mettez de côté, Remco Evenepoel?
Non, parce que je le mets de côté. Non, je ne le vois pas sur les deux premières places, pour la simple raison que dans les longs cols, il n'est pas encore aussi performant qu'un Tadej Pogacar ou un Jonas Vingegaard. Maintenant, le Tour de France, c'est tellement particulier que... Mais bon, quand on voit que Remco regarde simplement Kevin Vauclin, qui est derrière lui au classement général, pour sauver sa troisième place, il me donne l'impression de plus viser le podium ou la deuxième place. Donc je pense que ça va jouer entre ces deux coureurs. Ils nous ont déjà fait le spectacle dans les années passées. Je pense qu'on va encore y avoir droit.
Tadej Pogacar en jaune jusqu'à l'arrivée, Patricia Temreau, jusqu'à Paris? C'est possible, hein?
C'est fort possible, d'autant plus que le seul contre-la-montre qui reste où Remco aurait pu reprendre un peu de temps, même si, alors qu'il avait prédit qu'il reprendrait plus de 50 secondes sur le premier contre-la-montre et qu'il a pris que 16 secondes.
On rappellera que Remco Evenepoel est champion du monde et champion olympique
de la discipline. Et donc, il espérait prendre le maillot jaune sur ce premier contre-la-montre. Et oui, on voit que Tadej en fait a progressé en fait en contre-la-montre, hein, parce que là c'était du plat, c'était vraiment c'était fait pour Remco, et il prend que 16 secondes. Donc sur le prochain contre-la-montre qui fera 11 ou 13 kilomètres,
que en montée,
que accidenté, on voit que Remco il risque de pas prendre en fait de secondes, et on voit que les secondes étant importantes, on voit que Jonas, même sur ce contre-la-montre là, ça peut laisser penser que Tadej Pogacar remporte ce contre-la-montre. Donc là aujourd'hui, ça se peut qu'il aille, qu'il reste en jaune jusqu'à la fin. Sauf accident,
sur le Tour de France, on sait que tout est possible.
Est possible.
On le souhaite pas,
et
évidemment.
Accident ou défaillance humaine.
Ryan Lachny, Pogacar. Oui.
Pogacar, ouais, pour le moment, il semble intouchable, mais je pense que le Tour de France, c'est un marathon. Il peut se passer beaucoup de choses, des pépins physiques, des pépins mécaniques et d'autres choses qui peuvent arriver. Je ne souhaite pas, mais il y a plein de choses qui peuvent se passer sur un Tour de France. Après, ce n'est pas fini. Il y a quand même encore la Jumbo-Visma qui dispose de belles cartes. On parle de Vingegaard, mais on peut parler de Jorgensen qui pourrait être, comme ils l'ont fait sur le Tour d'Italie, être une carte à lancer de loin. Ça peut être envisageable, je ne dis pas que ça va se produire, mais ça peut être un rebondissement inespéré pour la suite du Tour de France.
Alors, puisqu'on parle de Tadej Pogacar, vous nous avez fait un petit cadeau, Ricardo Baroni, vous avez joint Alex Carrera qui est son manager et qui nous a adressé un petit message audio qu'on va écouter tout de suite.
Bonjour à tout le monde, je suis Alex Carrera, je suis l'agent de Tadej Pogacar et de l'autre coureur qui a fait le Tour de France, les coureurs professionnels. Comme Binyam Girmay, comme Jasper Philipsen, comme Emmanuel Buchmann ou Jordan Jadot. Je pense que la première semaine, c'est très dur, les Tours de France 20-25, mais les prochaines deux semaines, c'est encore plus dur parce qu'il va faire les grandes montagnes, les Pyrénées et les Alpes. Et c'est sûr un grand spectacle pour tous les spectateurs et c'est un spectacle aussi pour... les personnes qui sont en France et peuvent voir les coureurs. Tadej, aujourd'hui, c'est notre jour qui est en jaune. Je pense qu'il a pu faire une grande course, mais aujourd'hui, son grand coureur, son copain João Almeida, il doit fermer parce qu'il avait beaucoup de problèmes physiques après son crash. J'espère que tout votre pays il va voir les Tours de France et j'espère dans le futur peut-être visiter les Vents Prairies. À bientôt, Alex Carrera.
Voilà Alex Carrera, le manager de Pogacar qui espère bien venir en Calédonie. Il sera le bienvenu évidemment s'il vient, surtout s'il vient avec Tadej Pogacar. Hein, ce serait magnifique, Ricardo Baroni.
Oui, c'était déjà prévu dans le passé. Ça ne s'est pas passé comme on l'espérait puisque je l'avais rencontré pour que Tadej vienne il y a de ça 2 ans. Et ça s'est pas bien goupillé, donc on espère dans le futur, mais je pense aussi que la Nouvelle-Calédonie a actuellement d'autres soucis à gérer que la venue d'un Tadej Pogacar, même si ça ferait plaisir à beaucoup de personnes. Je voulais quand même dire une chose, c'est qu'on correspond durant le Tour de France, et il me disait qu'à Lille, il n'avait jamais vu autant de gens présent, puisqu'il y avait les Français plus les Belges, puisque c'était pas loin, et qu'il était impressionné par le monde présent à la première étape du Tour de France et à la présentation des équipes. Donc ça fait plaisir de voir que le Tour de France est toujours, comme dirait Ryan, la course numéro 1 au monde.
Ben ça, c'est clair. Le monde sur la route, on l'a vu aussi au Mur de Bretagne. Hein. On en a parlé, Ryan Lachny, on en serait cru presque à l'Alpe d'Huez. Presque, hein, parce que ça monte un peu moins longtemps. Mais il y avait quand même beaucoup de monde. Cet engouement populaire pour le Tour de France, il ne se dément pas année après année. On est chaque fois étonné qu'il y ait du monde sur le bord de la route, mais le spectacle est tel qu'on comprend finalement que les gens viennent voir passer les coureurs.
Exactement, d'autant plus que ça correspond avec les vacances d'été. Et du coup, je pense que tous les éléments sont là pour créer une grande fête autour de cet événement et que de rassembler le public sur le bord des routes.
On voit de belles images aussi, ça fait partie du spectacle, Patricia Temereau. Voir la France d'en haut aussi, d'une certaine façon.
Et puis, c'est aussi quand même un sport populaire. Et il ne faut pas oublier que c'est le seul sport où on peut voir les champions gratuitement. Au JO, il n'y avait quand même pas beaucoup de sports, par exemple. On pouvait aller voir les finales gratuitement. Si on allait voir du basket, si on allait voir de la natation. Là, quand on va voir du vélo, on prend la voiture, on prend le vélo, on prend la caravane, on se met sur le bord de la route, on attend, on y campe. Et le lendemain, on voit les champions passer. On est à quelques centimètres et c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Donc c'est sûr que c'est très fédérateur.
Mais qu'est-ce qui fait, Ricardo Baroni, que ce Tour de France, qui est la plus grande course par étape au monde, a plus de succès que le Tour, pardonnez-moi, hein, le Tour d'Italie ou le Tour d'Espagne, qui sont aussi des très très belles épreuves, qui sont très suivies, mais il n'y a pas cet engouement populaire qu'on peut connaître sur le Tour de France?
Ben, je pense que Ryan a raison, c'est que déjà c'est pendant les vacances et qu'il y a vraiment beaucoup de Français qui profitent de leurs vacances pour aller voir les étapes. Il y a des étrangers aussi qui profitent des vacances pour venir en France voir le Tour de France. Et c'est une couverture mondiale. Ça veut dire que quand vous allez en Australie ou aux États-Unis, quand vous parlez du Tour de France, tout le monde sait ce que c'est le Tour de France, tout le monde sait qui est le vainqueur du Tour de France. C'est vraiment une couverture mondiale et une organisation mondiale.
Alors, on va parler de cette étape de la nuit prochaine qui arrive, puisque c'est la première, on va dire, étape de montagne très sévère. Alors, vous avez le petit livre qui va bien, Ricardo Baroni, avec toutes les étapes détaillées, les parcours, les photos, tout est détaillé. Vous avez tout, en fait.
Voilà, c'est un book spécial tour que je voulais quand même remercier mon ami Enrico qui me l'a ramené, puisque c'est très difficile de le trouver en Nouvelle-Calédonie, qui permet de suivre le dénivelé, les horaires, le parcours et c'est toujours plus facile de suivre le Tour de France avec ce genre de livre.
Alors, l'étape de la nuit prochaine, c'est 165 km 300. C'est une étape de montagne, ça va monter fort, ça va descendre aussi fort. Comment vous voyez cette étape? On peut dire que Ryan Lachny, peut-être, c'est la première étape véritablement de montagne, hein, on va dire, de ce Tour de France, même si ce n'est pas encore la haute montagne, ça reste quand même très sérieux. Est-ce que pour les coureurs, il y a une petite appréhension quand on arrive sur des étapes de cette nature?
Oui, je pense qu'il y a une appréhension parce que tout le monde sait que ça ne va pas être une journée facile. Même si on est le numéro 1 mondial, on sait que quoi qu'il arrive, on va devoir s'employer pour soit créer des écarts ou soit répondre à des attaques. Du coup, je pense que quand on est un petit coureur un petit peu moins, fort que Tadej Pogacar, on sait qu'on va passer une journée galère. Quand on est sprinter, on sait qu'on va passer une journée galère parce qu'on sait qu'on doit rallier l'arrivée pour rentrer dans les délais. Alors oui, je pense que c'est une journée qui va être que beaucoup de personnes vont appréhender.
Patricia Temreau, voilà, quand on voit des côtes arriver de cette nature sur une étape de cette ampleur, ça peut faire peur quand même.
J'imagine que oui, surtout que je crois qu'il y a sept cols, 6 de catégorie 2, 1 de catégorie 3. C'est énorme, c'est monstrueux. Puis c'est des cols qui passent, ils les passent pas à 10 km/h, quoi. Donc ils sont à fond du début à la fin. Donc c'est sûr que ça, c'est là où il y a toutes les stratégies d'équipe qui se mettent en place. Après, enfin, je reviens sur Pogacar. Lui, il a encore Solaire qui est avec lui. Marc Solaire et un des frères Yates qui est encore aussi avec lui. Donc ça, c'est des bons grimpeurs. Mais c'est sûr que là, c'est toutes les stratégies qui se mettent en place de manière à ne pas laisser trop d'écart avec les échappés devant, à arriver plutôt en bonne condition au pied et puis à laisser le travail aux grimpeurs de se faire.
Ricardo Baroni.
Pour les connaisseurs, il y a 4450 mètres de dénivelé, donc c'est énorme. Mais ce qui est d'autant plus difficile, pour en avoir parlé avec les coureurs, c'est quand on fait beaucoup d'étapes avant avec du gros braquet et qu'on doit arriver dans des montées où on doit mettre le petit plateau, braquets, ouais. Voilà, des petits braquets. Il y en a certains qui ont beaucoup de difficultés à
Parce
faire le
changement. Parce que physiologiquement, c'est compliqué.
C'est ça. Ça veut dire qu'on passe sur du petit braquet. C'est beaucoup plus difficile de s'adapter par rapport à des grandes étapes comme hier où ils ont atteint presque le record de vitesse sur une longue étape, environ 50 km/h. Donc pour arriver à cette vitesse-là, il faut mettre de gros braquets. Et là, arriver dans des cols où il va falloir descendre le petit plateau devant, ça va faire des dégâts.
Physiologiquement, Ryan Lachny, c'est compliqué de gérer ces transitions?
Oui, c'est compliqué parce que c'est des étapes qui vont être très énergivores, qui vont demander beaucoup d'énergie aux coureurs parce que là, il y aura pas de temps de repos, sauf les descentes, bien sûr. Mais c'est les premières journées où les coureurs vont vraiment, vraiment prendre cher physiquement, je pense.
Alors, on a parlé évidemment des ascensions. Vous avez évoqué les descentes qui font aussi partie du cyclisme. On voit certains coureurs prendre parfois des très gros risques en descente. Il y en a qui frôlent, voire qui dépassent les 100 km/h hein, dans certaines descentes. Mais on peut faire une différence dans une descente aujourd'hui?
Oui. Oui, clairement oui, parce que c'est la prise de risque qui peut permettre de créer des écarts. Bien sûr, c'est pas la roulette russe, mais on peut vite aller à la chute et tout perdre, ou on peut juste se battre et essayer de gagner 2-3 secondes sur les descentes. On a des spécialistes qui descendent très bien. Maintenant, on peut pas être un coureur de grand tour et être un mauvais descendeur, sinon on jouera jamais les premiers rôles sur un grand tour. Du coup, oui, je pense que c'est important de savoir descendre.
Ricardo.
Oui, je pense que maintenant, ils descendent beaucoup plus vite parce qu'ils ont des freins à disque, ce qui a changé avec le passé où c'était des freins à patins, où il fallait freiner longtemps avant pour passer le virage. Maintenant, ils freinent presque au dernier moment et donc avec les freins à disque, ça leur permet d'atteindre des vitesses beaucoup plus élevées en plus grande sécurité.
Voilà. Et puis, il y en a qui ont vraiment le sens des trajectoires parce que c'est un exercice très particulier. On se souvient de certains grimpeurs français, notamment Laurent Brochard, qui était très bon en montée, qui était un peu moins bon en descente et à chaque fois, il se faisait reprendre. Alors, avec toute la différence, pour important qu'il avait fait dans l'école. Mais bon, c'est comme ça. Alors, il va falloir que vous vous mouillez quand même pour cette étape du 14 juillet. Il va falloir que vous nous donniez votre favori pour cette étape. Avant peut-être le favori, si Tadej Pogacar remporte cette étape, est-ce que ça veut dire que le Tour de France est quasiment plié? Il aura frappé un grand coup?
Ah non.
Non? Bon.
Ah non.
Donc, il y aura encore du suspense, même si c'est Pogacar qui gagne.
Oui, parce que... comme on l'a dit tout à l'heure, une défaillance humaine, en fait. C'est un niveau d'hydratation, un niveau nutrition.
On n'attendra plus que ça, quoi. Il faudra qu'il y ait une défaillance pour perdre.
Oui, mais là, tout le monde peut l'avoir, cette défaillance. Mais en effet, non, s'il gagne ce soir, ça ne veut pas dire qu'il gagne le Tour.
Alors, votre favori pour cette étape du 14 juillet, Ryan Lachie, on commence par vous.
Allez, je vais commencer par mouiller en disant Benili.
Benili. Le coureur américain qu'on a vu un peu sur ce début de tour déjà. Hein.
Ah non, il n'est pas...
Non, il est...
C'est Simons. Ouais. Vous confondez avec Simons.
Ah oui. Ouais. Benili, il est irlandais. De mémoire.
Irlandais.
Il a gagné une étape déjà.
Il a gagné une étape. Il a prouvé qu'il était en forme et c'est vraiment le type d'étape qui peut lui convenir. Une étape, comme on le dit dans le peloton, une étape chantier. Je pense que ça peut très bien lui convenir.
Patricia Temreau.
Moi, je verrais bien un Français, un des Paris Peintres, un des frères Paris Peintres.
Ah ah, le 14 juillet, on aimerait bien.
Ils ne sont pas marqués au général, ils peuvent peut-être prendre une distance, option. On peut peut-être dans une confusion.
Les laisser partir, pourquoi pas, et ne pas les revoir.
Oui,
Ricardo, un coureur italien, je parie.
Non, pas du tout. Moi, je ne fais pas de pronostic pour le vainqueur, mais je dis le coureur que j'aimerais bien, Kevin Vauclin.
Kevin Vauclin, voilà. Et moi, je mettrai une petite pièce, mais c'est vraiment juste un coup de cœur, parce que je pense qu'il n'a pas forcément de chance de gagner sur Wout van Aert, qui est quand même un coureur assez exceptionnel. Donc on verra tout ça demain matin dans les résultats. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus dans cette émission spéciale Tour de France, une semaine formidable.